all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all about freedom.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée, et je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode numéro 1, mon histoire et les 5 leçons apprises. Je vous avais promis que j'allais vous partager mon témoignage, et comme je tiens toujours mes promesses, nous y voilà. Dans quel contexte familial j'ai grandi? Quelle était ma relation avec mes parents? Quel était le degré de leur toxicité? Mon regard d'enfant, puis d'adulte, dans cette atmosphère toxique? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. C'est parti. Alors, j'ai grandi au sein d'une famille à 1000% dysfonctionnelle où l'amour conditionnel était la norme. Si on peut appeler ça de l'amour. Dans la fratrie, nous étions 3, mon frère jumeau avec qui j'ai seulement 15 minutes d'écart et ma petite sœur avec qui j'ai 3 ans et demi d'écart. Jusqu'à que je prenne mon envol pour retrouver enfin ma liberté tant rêvée et désirée depuis mes 14 ans, j'ignorais totalement ce qu'était l'amour inconditionnel au sein d'une famille. Pour moi, l'amour, même entre les membres d'une même famille, ça se méritait. Si tu étais sympa avec moi, je t'aimais bien, tu pouvais donc intégrer mon cercle. En revanche, si tu avais un comportement que je désapprouvais, mon amour pouvait momentanément s'estomper, voire totalement disparaître à partir du moment où tu avais franchi la ligne rouge. Tu pouvais être mon père, ma mère, mon frère, ma sœur ou mon ami, c'était la même chose. La règle s'appliquait pour tout le monde. Je vous rassure, ce n'est pas une règle que j'ai élaborée de toutes pièces pendant mes heures perdues. Clairement, j'avais d'autres ambitions dans la vie. En fait, c'est un principe qui s'est naturellement imposé à moi pour la simple et bonne raison que c'était l'éducation qu'on m'avait transmise. On a toujours fonctionné comme ça dans la famille, entre parents, enfants et frères et sœurs. Pour nous, c'était tout simplement logique et juste. Si vous voulez, dans mon esprit, j'avais comme une sorte de barème que j'appellerais le barème de l'amour. Ce fameux barème pouvait aller de 0 à 10. Et pendant 30 ans, j'ai trouvé ça normal. Normal puisque c'était l'éducation que j'avais reçue de la part de mes parents. Normal puisqu'ils l'avaient reçue eux-mêmes de la part de leurs propres parents. Normal parce qu'après tout, mes parents ne pouvaient pas se tromper. L'amour conditionnel, c'était mon schéma de pensée pendant 30 ans. Pendant 30 longues années, j'ai été dans l'erreur. Mes parents m'ont induise en erreur. J'en ai réellement pris conscience après avoir coupé les ponts avec eux. Est-ce que je leur en voulais? Oui et non. Non parce qu'ils étaient eux aussi dans l'erreur. Et au moment où je vous parle, malheureusement, ils le sont toujours. Et oui, quelque part, parce que jusqu'à présent, ils refusent volontairement et catégoriquement d'envisager une autre façon de voir les choses, car ils pensent détenir la vérité suprême. Ne cherchez pas la vérité, nous l'avons. Elle est de notre côté. C'est leur philosophie de vie. Ce sont les autres qui ont tort, ce sont les autres qui sont dans l'erreur, certainement pas eux. Être dans l'erreur, même si dans certains cas, cela peut malheureusement avoir des conséquences dramatiques, n'est pas en soi condamnable, car le plus souvent, l'erreur provient de l'ignorance, et n'oublions pas que l'erreur est humaine. En revanche, ce qui pour moi reste condamnable, c'est lorsque l'on refuse volontairement et avec acharnement d'ouvrir les yeux et d'envisager d'autres solutions, d'envisager d'autres options qui s'ouvrent à nous. Pour ma part, c'est de l'orgueil. Et malheureusement, l'orgueil est ce qui caractérise le plus souvent les parents toxiques. Vous savez à quel moment j'ai pris peur? À quel moment j'ai pris conscience que j'étais gravement dans l'erreur? Au point de prendre le risque de transmettre ce mauvais héritage à mes enfants? C'est lorsque j'ai pris conscience que je faisais des distinctions entre les enfants que je côtoyais. Les différences ne se voyaient pas spécialement à l'œil nu, parce qu'ayant souffert moi-même de favoritisme dans la fratrie, étant enfant puis jeune adulte, je mettais un point d'honneur à ne pas en faire, du moins à ne pas le manifester ouvertement. Et à ce niveau-là, je n'ai jamais eu de remarques. En fait, le souci était ailleurs. Il était logé tout au fond de moi. Dans mon cœur, chaque enfant avait sa place dans mon fameux barème de l'amour. Plus jeune, avoir ce type de barème ne me dérangeait pas. Je me rendais compte de mes préférences, mais comme je vous l'ai dit, je trouvais ça normal. C'est à la trentaine, début trentaine, lorsque j'ai entamé mon processus de guérison et de rétrospection, que j'ai réalisé que mon comportement n'était pas juste et que j'étais en train de reproduire malgré moi le comportement de mes parents. Quand j'ai commencé à m'examiner, je me suis dit que je ne voulais surtout pas perpétuer le comportement que mes parents avaient eu à mon égard, envers mes propres enfants, surtout pas. Il fallait que ça change. Il fallait absolument que je change. Petit à petit, je commençais vraiment à me sentir coupable, car je me disais que porter de tels jugements sur des petits-enfants de 3, 4, 5 ans, alors que la plupart du temps, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient, c'était injuste. Après tout, ils étaient en apprentissage. De quel droit je devais les juger? Comme si moi, adulte, je ne continuais pas à faire des erreurs et en apprendre d'elles. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de système de pensée, de changer d'état d'esprit. Progressivement, j'ai donc appris à changer mon regard vis-à-vis de certains enfants difficiles, voire très très difficiles, pour ne pas dire insolents. J'ai commencé à les regarder avec le cœur et à les considérer tout simplement comme de petits êtres imparfaits, tout comme je l'étais, qui ne demandait qu'à apprendre et à être tout simplement aimé, tout comme j'aurais voulu être aimé de mes parents. Honnêtement, je m'en serais vraiment voulu de reproduire ce schéma destructeur envers mes propres enfants. Combien de fois je n'ai pas entendu et vu des personnes malheureusement faillir à leur promesse de ne jamais, jamais se comporter comme leurs parents toxiques ou certains membres toxiques de leur famille. Ça a été le cas de mes parents qui ont fait pire que leur bourreau. Après, si pour certaines d'entre vous, vous vous êtes retrouvés dans la situation où vous avez reproduit malgré vous le schéma de vos parents toxiques, ne vous en rendez pas malade. Bien sûr, c'est toujours mieux d'éviter de reproduire les erreurs dont nous-mêmes avons été victimes, c'est clair. Mais le plus important reste l'intention. L'intention de reconnaître ses erreurs, ses failles, de demander pardon aux personnes à qui vous avez fait du mal, en l'occurrence vos enfants, de guérir, de vous reconstruire et d'avancer. Je le répète, le plus important, c'est l'intention, la bonne intention. Maintenant que vous connaissez la raison de mon changement de mindset, je vais revenir à l'environnement toxique dans lequel j'ai grandi. Comme je vous l'ai dit au début, il n'y avait pas du tout d'amour au sein de ma famille. Seul l'amour conditionnel régnait en maître. C'est au sein de cette famille dysfonctionnelle et criblée de blessures non traitées, non assumées et transmises de génération en génération que j'ai vu le jour. J'ai donc grandi non pas auprès d'un, mais de deux parents toxiques. Tant qu'à faire. Peut-être que c'était pour que je maîtrise deux fois plus le sujet. Je ne sais pas. Bref, j'en ai eu deux. Avec mon frère jumeau, nous avons 15 minutes d'écart, comme je l'ai précisé au début de l'émission, et avec ma petite sœur, 3 ans et demi d'écart. Malgré ce faible écart d'âge, j'ai toujours été surprise des différences de traitement et d'éducation que nous avions tous les trois reçues. Vous connaissez la fameuse expression « deux salles, deux ambiances » ? Eh bien, pour mon cas, c'était 3 enfants, 3 ambiances. Au moment où je vous parle, je n'en reviens toujours pas. Pour faire court, parce qu'il y a tellement à dire, jusqu'à l'arrivée de notre petite sœur, mon frère a été le préféré de mes deux parents. Sous prétexte que bébé, il avait eu quelques problèmes de santé, sous prétexte que c'était un garçon très sensible, il a été élevé comme l'enfant roi, l'enfant intouchable à qui tout lui était permis, sauf les tâches domestiques ou considérées comme ingrates, comme faire la vaisselle, le ménage, cuisiner ou d'autres tâches comme accompagner ses parents à l'hôpital, effectuer des tâches administratives, faire les courses tout seul, etc., etc. Enfant, j'ai toujours trouvé qu'il était trop gâté et que ça avait un côté malsain. Au fond de moi, je ne l'enviais pas, et encore moins la situation, car j'étais persuadée que ce n'était pas du tout lui rendre service de réagir comme mes parents le faisaient. Ce qui me choquait encore plus, c'était le personnage fictif que mes parents avaient réussi à créer de toutes pièces autour de mon frère, et tous les efforts méticuleusement mis en place pour qu'il incarne ce personnage en porcelaine. Pourquoi je parle de personnage en porcelaine ? Tout simplement parce que depuis les premières secondes de sa vie, on l'a toujours traité comme une petite chose fragile, comme un enfant lourdement handicapé à qui il fallait absolument faire plaisir pour lui faire oublier ses soucis que nos parents ont délibérément exagérés pour le rendre encore plus dépendant d'eux et beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'était. Alors oui, petit, il a eu des problèmes de santé. Bon, honnêtement, je n'en ai aucun souvenir, car avec seulement 15 minutes d'écart, vous comprenez que je n'ai jamais eu le recul nécessaire pour en prendre conscience, c'est sûr, blague à part. Il a eu des problèmes de santé, je le crois. Mais ses jours étaient loin d'être en danger. Et surtout, il était loin d'être handicapé. En fait, il ne l'était pas du tout. Alors pourquoi en faire un handicapé? Tout ce pseudo-drame autour de lui, ce n'était pas bon. Ses problèmes de santé étaient loin d'être dramatiques. Je me rappelle que toute mon enfance, j'ai entendu ces fameux refrains. Ton frère pense trop. Ton frère a des problèmes. Je m'occupe plus de lui car il a beaucoup de problèmes. Il a besoin de nous. Toi, tu peux te débrouiller toute seule. Je vous rappelle qu'on avait le même âge, hein. Tu sais, ton frère est sensible. Oui, moi j'ai un cœur de pierre. Il a des difficultés scolaires. Et puis le pauvre, c'est le seul garçon de la fratrie. Quel drame. Alors au début, quand j'étais toute petite, bien sûr que je croyais à leurs histoires, même si pour ma part, tout ce que je voyais comme problème, entre guillemets, c'était ses difficultés scolaires dans certaines matières, mais ça n'en faisait nullement quelqu'un de bête. Bien au contraire, il était intelligent, mais on le considérait comme bête. Et il n'a rien fait pour se défaire de ce rôle. Quelque part, il en jouait. Et au final, il y a trouvé son compte et en a bien profité. Quel gâchis. Quel gâchis. En grandissant, ce n'était plus le petit garçon rempli de problèmes que je voyais, mais tout simplement un jeune garçon, puis un jeune homme qui profitait bien de la situation pour faire ce qui lui plaisait. Souvent, je me révoltais, car je disais à mes parents que les traitements de faveur dont ils bénéficiaient n'étaient pas justes, et surtout qu'ils ne lui rendaient pas service en l'élevant comme si c'était un incapable. Vous vous imaginez, moi, la gamine, je donnais des leçons à mes parents. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les documentaires. Et lorsque je regardais des émissions sur ce que des personnes en situation de handicap physique ou mental pouvaient accomplir, parce que les parents avaient eu la sagesse de ne pas regarder au handicap mais au potentiel de leurs enfants, j'étais à la fois épatée et triste. Car mon frère, qui était sans handicap, était au final moins dégourdi que ces personnes et ça l'arrangeait. Ça arrangeait encore plus mes parents qui pouvaient mieux le contrôler. Au final, chacun y trouvait son compte sans savoir qu'ils étaient tous les trois dans un aveuglement total. En fait, chacun manipulait l'autre en pensant contrôler la situation. Quel gâchis! Encore une fois, quel gâchis! Honnêtement, ça m'attristait et ça m'attriste toujours au moment où je vous parle, parce que rien n'a changé. Aujourd'hui, mon frère est un homme intelligent, certes, mais immature, tout comme ma sœur, et surtout totalement aveuglé par l'emprise que nos parents ont sur eux. Honnêtement, rien qu'en le disant, ça me fait mal au cœur pour lui. Mais bon. Ce n'est pas faux d'avoir tenté de lui tendre la main, de lui ouvrir les yeux, mais en bon prisonnier complètement aveuglé, tout comme ma sœur, il a choisi le mauvais camp. Ils ont choisi le mauvais camp. Que voulez-vous ? On ne peut pas obliger les gens, même si c'est son frère jumeau, à sortir du filet s'ils n'en ont pas envie. Au final, chacun sa route, chacun son chemin. Venons-en à l'arrivée de ma petite sœur. Dès le début, ma sœur et ma mère ont eu une relation méga fusionnelle. Elle était tout le temps dans les jupons de ma mère, à un âge où, petite fille, je considérais qu'elle n'avait plus à l'être. Je me rappelle avoir demandé à ma mère pourquoi ma petite sœur avait du mal à se détacher d'elle. Elle me disait qu'étant donné que c'était la petite dernière de la famille, c'était normal. Ma mère me donnait son propre exemple en disant qu'elle-même, étant la petite dernière et la petite chouchoute de la fratrie, elle s'était comportée de la même façon, même en étant jeune adulte, c'est-à-dire la vingtaine. Bon, je trouvais ça étrange, limite malsain, mais bon. En même temps, quand tu vis au sein d'une famille toxique, comment veux-tu que les choses soient saines ? Comment veux-tu grandir et t'épanouir sainement en tant que jeune adulte si tes parents t'abaissent et t'encouragent systématiquement à rester enfant, voire bébé ? Impossible. Au final, ça devient des enfants dans un corps d'adulte. C'est horrible et en même temps, c'est triste. Il faut savoir que dans la fratrie, j'étais la seule à avoir ce côté super indépendant et débrouillard. Du coup, je n'ai jamais compris ce genre de fusion malsaine qui te ramène toujours à ta condition d'enfant. Ma sœur, étant la petite dernière de la famille, a toujours été traitée comme telle, et c'est encore le cas aujourd'hui à 30 ans passés. C'est spécial. Bref. Du coup, ma sœur, c'était la petite à qui, elle aussi, on ne pouvait rien lui refuser. C'était la petite qu'il fallait absolument protéger pour lui éviter d'éventuels traumatismes. On lui épargnait donc tout sujet qui aurait pu heurter sa sensibilité car trop jeune pour supporter le poids de certaines révélations. À 20 ans, elle était encore considérée comme trop jeune pour entendre certaines choses alors qu'à même pas 8 ans, on me confiait des problématiques d'adulte assez lourdes sans se soucier de mon mental ou sans se demander si c'était normal de faire peser des cas relativement sérieux sur mes frêles épaules. Mais comme ce n'était que moi, ce n'était pas grave. Franchement, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce d'avoir eu la maturité d'encaisser certains sujets sans avoir eu de séquelles. J'en profite pour remercier Dieu de m'avoir préservé de tout problème psychologique. Je considère que c'est un véritable miracle, clairement, d'être resté saine d'esprit. J'en connais malheureusement qui ont eu à peu près le même parcours que moi et qui s'en sont très mal sortis. Donc honnêtement, merci. Merci, merci Seigneur. Franchement, j'en ai jamais souffert et ça ne m'a jamais dérangé que ma mère ou d'autres adultes de mon entourage me confient leurs problèmes. Bizarrement, je trouvais ça naturel et quelque part assez valorisant. Ils me faisaient confiance et prenaient en considération mes conseils. C'est beaucoup plus tard, en fait, que j'ai réalisé que c'était loin d'être anormal. Loin d'être normal, pardon. Lapsus. En revanche, lorsque je trouvais que des personnes plus âgées qui ne faisaient pas partie de ma famille allaient un peu trop loin dans leur déversement et que ça risquait de me traumatiser, je leur disais stop. Et ils réalisaient à ce moment-là qu'ils avaient affaire à une petite fille et non à une adulte. Ma sœur était aussi la petite à qui on tolérait ses larmes quotidiennes alors qu'elle n'était plus un bébé. C'était aussi celle à qui on réservait certains privilèges sous prétexte qu'elle était la plus jeune. Alors je vais justement vous partager un de ces privilèges. Ça sera la séquence légèreté de l'émission. Vous me croirez si je vous dis qu'il a fallu que j'attende mes 18 ans pour avoir la permission de manger un yaourt à la fraise. Alors, je m'empresse de m'expliquer parce que sinon vous allez trouver la situation encore plus bizarre qu'elle ne l'est déjà. Je vous rassure, je connaissais le goût du yaourt à la fraise avant mes 18 ans et j'en avais déjà mangé pas mal avant. Mais un beau jour, il est venu à l'esprit de mon père de réserver tous les yaourts à la fraise pour ma petite sœur parce que c'était son yaourt préféré et comme c'était encore une fois la plus petite, il fallait lui faire plaisir. Du coup, pendant des années, j'avais le droit à tous les goûts sauf celui de la fraise. L'année de mes 18 ans, ma sœur a séjourné quelques semaines à Londres. Et étant donné qu'elle n'était plus là, j'étais devenue la, entre guillemets, la petite dernière, puisque j'étais plus jeune de 15 minutes hein, par rapport à mon frère jumeau. Du coup, même si je trouvais la situation complètement ridicule, moi qui étais devenue adulte, j'ai décidé d'appliquer la règle du jeu de mon père, clairement non sans ironie, comme vous pouvez vous en douter. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie voir mon père et je lui ai demandé si je pouvais prendre le fameux yaourt à la fraise puisque j'étais temporairement devenue la plus jeune de la famille. Franchement, c'est ridicule. D'autant plus que je n'avais pas besoin de lui demander la permission puisqu'elle n'était pas là. En fait, je l'ai fait pour me moquer de la situation. C'était tellement ridicule qu'il fallait que je le souligne. 18 ans. L'âge de la majorité, l'âge où tu te sens libre, libre de faire ce que tu veux, entre guillemets. L'âge où tu as envie de manifester ton indépendance, l'âge où tu t'imagines en train de faire ce qui t'était encore interdit à 17 ans trois quarts. Eh bien moi, à 18 ans, j'étais rendue à demander à mon père la permission de manger un pauvre yaourt à la fraise. Encore aujourd'hui, franchement, quand j'y pense, ça me fait rire. Et vous avez raison, si vous rigolez, vous avez raison. Vous avez raison de rire avec moi, parce que c'est stupide. C'est une anecdote qui paraît futile et anodine, mais à y regarder de plus près, pas tant que ça. C'est dans cette futilité que l'on se rend compte des profonds troubles psychologiques du parent toxique. Bref, c'était la séquence légèreté. J'en reviens à la relation mère-fille entre ma sœur et notre mère. Donc ma mère vouait une admiration sans faille pour ma sœur. C'était sa princesse, c'était son bébé. Lorsqu'elle partait en voyage, elle n'avait que le nom de ma sœur dans la bouche et faisait l'éloge de ses beaux cheveux, de ses beaux et longs cheveux et des cils de ma sœur qu'elle considérait comme très longs alors que je les avais plus longs qu'elle. Mais bon, ça reste un détail de l'histoire. Je me rappelle qu'il y a 10 ans, on avait voyagé toutes les trois entre filles en Israël et qu'avant le départ, j'appréhendais ce voyage de peur de me sentir isolée. Par moments, c'est clairement ce que j'ai ressenti. C'est quand même triste. C'est quand même triste de se sentir à l'écart au milieu de sa propre famille. Là où tu es censé te sentir en sécurité. Comme dans une sorte de bulle de protection. C'est dommage. En écoutant ces différentes anecdotes, vous pouvez penser certainement que mes parents pouvaient être ignorants ou limités intellectuellement. Eh bien non. Mes parents étaient loin d'être intellectuellement limités. Ils étaient même cultivés, avaient fait des études universitaires comme quoi. En fait, le problème était clairement ailleurs. Il y a des personnes qui sont malheureusement habitées par de mauvais esprits et c'est clairement leur cas. Venons-en à mon cas. Sans surprise, vous l'avez deviné, entre le frère porcelaine et la petite princesse, j'étais au milieu. Puisque les plus beaux rôles avaient déjà été distribués, il n'en restait plus qu'un. Et comme toute histoire qui se respecte, il y a les gentils et les méchants. Je vous laisse deviner qui détenait le rôle de la méchante. Dans le scénario, mes parents ont eu la délicatesse de ne pas me laisser en reste pour une fois, en me décernant non pas un seul rôle, celui de la méchante, mais plusieurs rôles. Le rôle de bouc émissaire, de mouton noir, de bobonne, de serpillière, de psy, de coach, tiens donc, de confidente, de secrétaire, etc., etc. Le rôle récurrent qu'ils m'ont imposé pendant des années en me faisant croire que plus qu'un rôle, c'était foncièrement mon identité, c'était bien évidemment celui de la méchante, la mauvaise de service, l'égoïste, celle qui avait le plus mauvais caractère de la famille, celle qui devait prier tous les jours plus fort que les autres pour avoir enfin un bon caractère. Même si pendant très longtemps, j'ai trouvé que ces qualificatifs n'étaient pas du tout justifiés ni représentatifs de ma véritable identité, je les avais intégrés malgré moi, à force de me le faire entendre dire depuis toute petite. Même si au départ, il y a une certaine résistance et que tu te défends de ces qualificatifs, tu finis fatalement par y croire. J'y ai donc cru pendant des années, même si la plupart de mes actes témoignaient du contraire. Quand à l'extérieur, les gens sont témoins de ce que tu fais pour ta famille et louent tes qualités, alors qu'au sein de ta propre famille, tu es considéré comme une pestiférée, c'est compliqué. C'est même très perturbant, parce qu'il y a un tel écart de point de vue entre ce que disent de toi les gens de l'extérieur et ta propre famille. Je précise qu'en aucun cas j'ai joué un rôle. J'avais le même comportement aussi bien avec ma famille qu'avec mes amis ou collègues. Bien sûr que je n'étais pas parfaite. Il m'arrivait en tant qu'enfant de faire des bêtises, mais pas plus que mon frère et ma sœur. Alors pourquoi ? Pourquoi cet acharnement ? Tout simplement parce que par rapport à mon frère et ma sœur, côté personnalité, je détonnais. Des trois, j'étais celle qui avait le plus de personnalité. Vous remarquerez que c'est souvent l'enfant qui sort du lot qui s'en prend plein la tête. C'est peut-être votre cas. J'étais un enfant dégourdi, autonome et indépendant, avec du caractère et très mature pour mon âge. Donc pour un parent toxique, avoir ce genre de profil dans son entourage, surtout lorsque c'est son enfant, ça reste compliqué. Pour le parent toxique, c'est le pire scénario. Pourquoi ? 1. parce qu'il ne peut pas avoir le contrôle sur son enfant. Il ne peut pas le manipuler à sa guise. Or, par essence, la raison d'être du parent toxique est de dominer. Et deux, parce que souvent, l'enfant qui détonne voit plus ou moins clair dans le jeu du parent toxique et lui résiste. Alors, au lieu d'utiliser la méthode douce que mes parents ont utilisée envers mon frère et ma sœur, ni vu ni connu, ils ont monté une opération coup de poing pour tenter de me mettre à terre et me dompter. C'est donc passé par des insultes, par du mépris, aussi par des attaques sur mon physique. Je vais vous donner plusieurs exemples. Exemple numéro 1. Alors qu'on regardait une émission sur les personnes mal dans leur peau qui voulaient recourir à la chirurgie esthétique, tout d'un coup, ma mère s'est retournée vers moi en me demandant si je songeais éventuellement à passer sous le billard. Lorsqu'elle me pose cette question, du haut de mes 20 ans, donc jeune femme en construction, je lui réponds avec assurance non. Et je lui demande, pour la tester, pourquoi tu voudrais que j'aie recours à la chirurgie esthétique? Entre nous, je connaissais sa réponse, hein, mais je voulais savoir si elle aurait cette audace d'aller jusqu'au bout de sa cruauté. Et sans surprise, elle l'a fait en me répondant, « Ah bon? Tu ne voudrais pas refaire ta poitrine ?» Tu sais, les hommes aiment bien les femmes qui ont une bonne poitrine. Pour ton futur mari, ça serait bien. Honnêtement, parce que j'avais quand même du respect pour ma mère, malgré tout, j'ai clôturé le débat en disant que je n'avais aucun complexe à ce niveau-là, que j'étais clairement dans la norme, que j'acceptais la manière dont Dieu m'avait créée et que mon mari m'aimerait tel que je suis. C'est la conclusion que je lui ai livrée, mais au fond de moi, je pensais, si avoir une grosse poitrine était gage de fidélité, ça se saurait. Toutes les femmes feraient la queue, même les plus récalcitrantes, à la chirurgie. Bon, je ne voulais pas la blesser, donc j'ai préféré taire cette pensée. Ça n'aurait pas été ma mère, je lui aurais clairement partagé ce que je pensais sans état d'âme. Il faut savoir que la problématique de la poitrine de Nadia ne datait pas d'hier. Dès l'adolescence, c'était parti. Exemple numéro 2. Ma mère qui compare ma poitrine à celle de ma petite sœur. Encore une fois, un jour, j'étais tranquillement au salon en train d'écrire et soudainement, ma chère mère me balance sans raison. Pourquoi ta poitrine est plus petite comparée à celle de ta sœur? Et elle se met à pouffer de rire. J'avais la vingtaine, tout comme ma sœur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ce genre de questions? Ben, j'ai répondu que c'était comme ça. Exemple numéro 3. Alors que j'étais tranquillement à nouveau au salon en train de manger, mon père sort en plein repas et en anglais « flat ». Flat qui veut dire « plat ». Donc, flat en parlant de ma poitrine. Et après cette douce parole, il me conseille calmement de boire plus d'eau pour en augmenter le volume. Franchement, pour en augmenter le volume, il fallait que je boive plus d'eau. Donc, mesdames, si vous songez à faire de la chirurgie esthétique pour augmenter votre poitrine, ça ne sert à rien. Buvez de l'eau. Ça ira mieux. Vous voyez que c'est ridicule, quoi. C'est franchement ridicule. À ce niveau-là, on ne marche même plus sur la tête, hein. Ni sur les yeux, mais sur les cils. Tellement c'est ridicule. Et en même temps, enfin, quand j'y pense maintenant, ça me fait rire parce que c'est, je sais même pas quoi penser. C'est tellement, bref. Vous savez ce qui m'a sauvée? Et empêcher d'être une ado bourrée de complexes, c'est ma maturité et ma capacité à prendre de la hauteur. J'étais tellement consciente que ce genre de complexe pouvait détruire une vie que je me suis jurée, adolescente, de ne pas avoir de complexe, ou du moins de ne pas m'en inventer. Parce que c'était clairement le but de mes parents, me faire complexer pour me rendre vulnérable et me maîtriser. En écoutant ces quelques anecdotes, vous pouvez penser qu'il y a pire, mais bien sûr qu'il y a pire. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit et ce n'est pas le but. Mais mis bout à bout, pendant 30 ans, ça ne favorise pas une estime de soi au top niveau. Ça n'encourage pas à la confiance en soi. Alors oui, j'avais de la personnalité, mais ça n'empêche pas de tituber dans la vie quand tes parents, figures d'autorité, ont tenté à maintes reprises de te mettre KO. À force, ça laisse des traces, même si tu es une Wonder Woman. Des parents, notamment le père, qui attaque ta féminité, c'est dramatique, c'est cruel. Ça peut mettre à mal tes futures relations avec le sexe opposé. Des parents qui ne t'ont jamais serré dans les bras en te disant « Je t'aime ma fille ». Comment voulez-vous qu'elle accueille l'amour que lui témoignera autrui, notamment l'homme de sa vie? C'est compliqué. Pas étonnant que certaines femmes tombent dans une totale dépendance affective. Pas étonnant qu'à force de faire peser sur son conjoint toutes les blessures du passé et le manque d'assurance, la plupart des mariages se soldent par un échec. Pas étonnant que de nombreux mariages soient fondés sur des sables mouvants. L'être humain a besoin de donner et de recevoir de l'amour. S'il n'en reçoit pas, il ira d'une manière ou d'une autre en chercher ailleurs ou se réconforter comme il peut. La dépendance affective ou autre pourra se manifester de plusieurs façons, sexualité débridée, drogue, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails car j'en parle plus en profondeur dans ma formation sur le rejet. Tout ça pour dire que vous vous rendez compte que vivre avec des parents toxiques, quel que soit le degré de toxicité, peut engendrer un véritable tsunami dans la vie d'une personne. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé, après une énième main tendue vers mes parents, de couper les ponts, de mettre en place le no-contact. C'est pour toutes les fois où je me suis faite traiter d'égoïste et de mauvaise alors que je me sacrifiais pour eux. Toutes les fois où j'ai donné régulièrement de l'argent à mes parents avec bon cœur, tout en me faisant traiter de mauvaise alors que ma situation financière n'était pas encore installée. C'est pour toutes les fois où on a mis à mal mon estime de soi en s'en prenant à mon physique. C'est pour toutes les fois où l'on a épargné mon frère et ma sœur en m'attribuant systématiquement des tâches ingrates sans aucune considération à mon égard. C'est pour toutes les fois où ils se sont servis de moi par intérêt, toutes les fois où je me suis sentie exclue, incomprise et mal aimée, toutes les fois où ils m'ont humiliée en me rabaissant par leur cruauté, toutes les fois où ils ont prononcé des mauvaises paroles pour la nouvelle année ou mon anniversaire, toutes les fois où ils m'ont menacé de mort, toutes les fois où mon identité a été mise à mal, toutes les fois où je ne me suis pas du tout sentie aimée, protégée et entourée dans les étapes cruciales en tant que petite fille, puis jeune femme, toutes les fois où ils ont aspiré ma jeunesse pour rallonger leur vie. Vous allez me dire qu'avec tout ça, pourquoi j'ai mis autant de temps à couper définitivement les ponts avec mes parents? En fait, si j'avais discerné réellement leurs réelles intentions et leur personnalité, je n'aurais pas attendu aussi longtemps. J'avais discerné plus ou moins leur personnalité malveillante sans les qualifier de toxiques, parce que je ne connaissais pas ce qualificatif de parents toxiques. Je n'en avais jamais entendu parler. Relations toxiques, oui, dans un couple, je connaissais, mais parents toxiques, non. Je ne connaissais pas. Le fait que pendant des décennies, ils ont savamment détourner l'attention sur d'autres membres de leur famille respective, en les qualifiant de mauvais, en pointant du doigt le fait qu'ils nous voulaient du mal, ont aussi fortement contribué à mon aveuglement. Pendant des décennies, mon attention, notre attention avec mon frère et ma sœur, était tournée vers les autres membres de la famille qu'ils avaient qualifiés de mauvais, en se donnant bien évidemment le bon rôle, celui de parents protecteurs, alors qu'au final, ils étaient dans le même camp. Ils jouaient dans le même camp. À 20 ans, j'ai commencé à avoir des doutes vis-à-vis de mon père concernant le bien qu'il me voulait. Je commençais à me méfier, mais pas à outrance, parce que ça restait encore flou. Concernant ma mère, c'est seulement bien plus tard, une dizaine d'années plus tard, que j'ai vu son vrai visage. Et pourtant, adolescente, j'avais fait un songe qui semblait plus que réel concernant son intention de me détruire. Dans mon rêve, elle voulait m'empoisonner. Elle tentait de m'empoisonner et je me débattais comme je pouvais pour ne pas ouvrir la bouche en priant Dieu de me secourir. Et dans le rêve, j'avais remporté la victoire. Elle n'avait pas pu m'avoir. Mais étant donné qu'elle se cachait derrière une apparente piété pour se donner le bon rôle, celui de la bonne mère de famille, j'ai écarté ce rêve clairement prophétique qui révélait qui elle était en réalité. Le fait aussi qu'ils avaient pourvu sans faille à mon bien-être, tant au niveau santé, matériel que scolaire, ça ne m'a pas permis de lever le voile sur la réalité. Franchement, s'ils devaient me payer des cours particuliers en maths, parce que les maths, bon, c'était pas trop mon truc, hein, moi je suis plus littéraire que scientifique, ça c'est sûr, s'ils devaient me payer des cours particuliers en maths, il n'y avait aucune hésitation. Au niveau santé, vestimentaire, nourriture, il n'y a rien à dire. Ils ont fait plus que le job. Donc tout ça a aussi contribué à me faire croire qu'ils désiraient quelque part mon bonheur, malgré certains comportements que je jugeais discutables. Les souvenirs de toutes leurs attentions m'ont fortement déroutée et troublée quand j'ai fait tomber leur masque. Que tu aies 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu as envie de croire que tes parents veulent ton bonheur. Il n'y a rien de plus normal que d'y croire. Quand j'ai découvert leurs véritables intentions, je me suis dit comment des parents qui pouvaient se sacrifier pour nous donner le meilleur, que ça soit au niveau santé, au niveau scolaire, au niveau matériel, pouvait en même temps souhaiter ton malheur et vouloir te détruire. Pour moi, c'était pas cohérent. C'était pas du tout cohérent. J'ai mis plusieurs années à comprendre. Mais plus tard, j'ai compris que prendre soin des besoins primaires de son enfant ne voulait pas forcément dire qu'on l'aimait. Ça pouvait être deux choses totalement distinctes. D'ailleurs, dans un des épisodes à venir, j'en parle plus en détail. Même s'ils avaient des comportements déviants, comme le fait de faire du favoritisme au sein de la fratrie, jamais j'aurais cru qu'ils me vouaient une haine à ce point, au point de souhaiter ma mort. Leurs masques sont définitivement tombés quand j'ai dit stop. Quand j'ai dit stop une bonne fois pour toutes à leurs agissements toxiques. Dès lors que j'ai dit stop, et je tiens à remercier mes amis qui m'ont soutenu dans ce combat, ils se reconnaîtront, tous les masques qu'ils avaient superposés, vous savez comme les poupées russes, tous ces masques-là ont volé en éclats. J'ai conscience qu'il y a encore des couches à enlever. Je n'ai pas encore tout découvert, mais j'en avais suffisamment vu pour décider d'entamer ma cure de détox. Comme toute expérience, bonne ou mauvaise, il y a des leçons à en tirer. Les leçons, même si elles sont apprises de la plus dure des manières, sont toujours bénéfiques. Voici les leçons que j'ai apprises durant mon parcours de combattante. Première leçon, se fier à son intuition. Au fil des ans, j'avais des indices sous les yeux, mais j'étais aveuglée pour toutes les raisons évoquées précédemment. Si vous avez des doutes qui reviennent régulièrement, si un comportement blessant et répétitif vous interpelle, prenez le temps d'examiner la situation. Menez votre enquête. Soyez attentive dans l'observation. Deuxième leçon. Quoi que l'on fasse, quels que soient les sacrifices que l'on fait, le parent toxique ne le verra jamais comme un acte d'amour, mais comme un dû, car lui-même ignore ce qu'est l'amour. J'avais beau faire des actes charitables, dans le meilleur des cas, ce n'était jamais assez, ou dans le pire des cas, c'était ignoré et je restais la méchante, l'égoïste. Troisième leçon, le temps ne guérit pas les blessures. Vous êtes choqué par cette prise de conscience? Je vais vous expliquer. Les blessures peuvent traverser le temps, mais tant qu'elles ne sont pas traitées, elles continueront à saigner et à faire des dégâts. C'est parce que mes parents n'ont pas soigné leurs blessures qu'ils les ont répandues sur leurs enfants. Eux-mêmes ont été victimes de rejet, non pas au milieu de leurs parents, car tous les deux ont été les chouchous de leurs parents, mais tous les deux ont vécu des traumatismes liés au rejet, lorsque durant leurs études, ils ont dû quitter le domicile parental pour vivre avec leurs oncles et tantes. Ces derniers faisaient clairement la différence entre eux et leurs propres enfants et les maltraitaient au point de ne pas les nourrir convenablement, eux qui n'avaient jamais manqué de rien chez leurs propres parents. Suite à ces traumatismes, ma mère s'était jurée de ne jamais agir comme l'une de ses tantes qui l'avait maltraitée en favorisant ses propres enfants. Sauf qu'au final, ma mère a fait pire en exerçant de la discrimination envers sa propre fille, en l'occurrence moi, au milieu de la fratrie. Quatrième leçon, ça ne sert à rien de leur donner une énième chance. C'est une perte de temps. Tant qu'ils ne seront pas prêts à changer, tant qu'il n'y aura pas de réelle prise de conscience de leur part, vous perdrez votre temps à tenter de réparer la relation, à tenter d'apaiser les tensions, de leur tendre la main, d'assouvir, vous perdrez votre temps en essayant de leur tendre la main, d'assouvir leurs besoins pour avoir un semblant d'amour en retour. Tant que la démarche ne viendra pas d'eux, votre main tendue restera tendue dans le vide. Je ne suis pas du tout du genre défaitiste, mais à un moment donné, il faut sortir de la fiction qu'ils ont créée de toutes pièces, regarder la réalité en face et se rendre à l'évidence. Voilà. Cinquième leçon. Le parent toxique a besoin de créer du drame autour de lui pour sa survie. J'ai vraiment remarqué qu'à partir de rien, ils avaient cette capacité hors norme à créer tout un drame et en faire porter la responsabilité même quand t'étais pas là. Le drame, c'est le poumon de leur vie. Sans drame, ils meurent. À chaque fois que j'étais tranquille dans mon coin, ils venaient de nulle part avec leur seringue m'injecter leurs toxines. Alors, il y a d'autres leçons que j'ai apprises, bien évidemment, mais pour des raisons de timing, je vais m'arrêter là. On aura de toute façon l'occasion d'y revenir au fil des épisodes. L'émission touche à sa fin. Petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans cet épisode. J'ai détaillé l'environnement familial toxique dans lequel mon frère, ma sœur et moi avons grandi. Je vous ai partagé aussi le jour où j'ai pris conscience que j'étais en train de reproduire, malgré moi, le schéma de mes parents concernant le favoritisme envers les enfants. On a vu certaines caractéristiques propres aux parents toxiques, telles que l'orgueil et l'obsession de créer du drame autour de lui en blessant leur cible. On a aussi vu les 5 leçons que j'ai apprises durant mon parcours de vie. Durant mon parcours de vie, durant surtout mon parcours de combattante. Vous connaissez à présent les grandes lignes de mon témoignage et les leçons que j'en ai tirées. Maintenant, à votre tour. Challenge du jour. En parcourant votre histoire, quelles sont les 5 leçons que vous avez apprises? Pour avancer et ne plus répéter inconsciemment certaines erreurs commises pendant des années, voire des décennies, il est important d'avoir un regard lucide et objectif sur les erreurs qu'on a commises, sans ressentir de la culpabilité à l'extrême, ni s'auto-flageller. Il est aussi important de se demander pourquoi on les a commises et quelles leçons on en a tirées pour éviter de les reproduire à nouveau. Chaque combat se fait dans la douleur. Face au combat, il y a 2 façons de réagir. Ajouter de la douleur à sa douleur, et dans ce cas-là, on ne sort jamais du combat, ou passer à l'action en transformant sa douleur en force. À ce moment-là, on ne parle plus de combat, mais de victoire. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à mercredi prochain. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai ravie de les lire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et partagez le lien du podcast autour de vous. Plus on sera nombreuses à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Ça sera d'ailleurs le thème du prochain épisode, parents toxiques, sujet tabou. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous dis à mercredi prochain et vous souhaite une bonne cure de détox pour une liberté non négociable. Ciao. It's all about freedom, finding peace at last. It's all about freedom, finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all